no one anywhere.
Because it was supposed to be a tunnel.
That's not very funny. That's not very funny. That's not very funny.
Not very funny.
Angels in America, l'opéra donc de Peter Rodvesh, qui est donné à Paris au Théâtre du Châtelet, avec encore une représentation ce soir, une dimanche en matinée à 16h et une lundi à 19h30. Merci encore à Peter Rodvesh d'avoir donné toutes ces réponses aux questions que David Gis lui posait. C'était Un poco agitato, Jean-Philippe Navarre, Xavier Carrère, Christian Chazalon, Jean Frédérix, David Gis, Yvan Amar. Vous pouvez réécouter cette émission en vous connectant au site internet de France Culture en cherchant Un poco agitato. Vous écoutez France Culture, il est 17h01.
La série Histoire de peinture, diffusée pendant l'été 2003, est désormais disponible dans une coédition de France Culture sous la forme d'un livre accompagné d'illustrations et d'un CD restituant l'ensemble de cette série fondée sur l'enthousiasme, l'audace et le désir de transmettre un regard, une curiosité, un savoir.
Le mécanisme de l'émotion, la venue de l'émotion pouvait se produire de deux façons différentes. Premièrement, le choc, la surprise, l'émotion pure et impossible à verbaliser. Par exemple, ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse, c'était le bleu. Ce bleu-là, cette tonalité de bleu inventée par Matisse, m'a bouleversé au point que j'ai eu larmes aux yeux, donc j'ai quitté la salle immédiatement. Je suis pas revenu, parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau, on peut pleurer chez soi, pas en public devant un tableau.
En 25 fois 5 minutes, Daniel Arras nous emmène dans un passionnant parcours à travers l'histoire de l'art. Partant de l'invention de la perspective pour aboutir à la disparition de la figure.
Le deuxième type d'émotion, c'est l'émotion de la densité de pensée à travers les couleurs, matières, formes, etc. Et je n'ai que des mots pour essayer d'en rendre compte, en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qui a, c'est vraiment l'émotion hyperverbale. Donc même quand le tableau ou la fresque a été comprise, y revenir, c'est affronter à nouveau ce silence de la peinture.
Désormais, disponible en librairie.
Chaque jour,
sur France Culture,
sua memória faz du sport.
Chaque jour,
sur France Culture,
votre mémoire fait du sport.
Chaque jour, sur France Culture, je cache ta cotonnière, votre mémoire fait du sport. Je prends mes poches pour rien. Todos os dias, na France Culture.
Sur France Culture.
Sur tu es sur les paniers. Votre mémoire fait du sport. Écoutez, vous êtes sur France Culture. À voix nue. Cette semaine, Raphaël Antoven s'entretient avec Lucien Gerfagnon, spécialiste de la pensée grecque et romaine.
Lucien Gerfagnon et Saint-Augustin avaient le même âge quand l'un fit la connaissance de l'autre. Le premier était alors un adolescent bordelais du XXe siècle, hanté par la question de savoir ce qu'il faisait là, et l'autre n'était qu'un vaurien du IVe siècle, dont la mère dévote ne pouvait empêcher qu'il dérobât les poires du jardin de son voisin. Plus tard, dans un petit livre intitulé « Le pédagogue de Dieu » et dans l'édition nouvelle des œuvres complètes d'Augustin dans la Pléiade, le biographe exemplaire du seul auteur qui soit plus lu qu'Aristote au Moyen-Âge et qu'Harry Potter aujourd'hui, s'évertuera à débarrasser l'icône augustinienne des idées reçues qu'on y dépose, que ce soit celle du fêtard converti à l'ascèse ou celle plus tard d'une vie érémitique et consacrée à Dieu. En fait, à lire Gerfagnon et à discuter avec cet homme que la lecture de Saint-Augustin rend si heureux, on en vient à se demander s'il n'est pas de meilleure façon de passer la vie que de faire aimer celle des autres.
C'est la présence d'Augustin dans mon boulot qui est intéressante pour moi. Et depuis tout ce temps-là, il a été encore plus présent qu'il n'était. Il avait déjà été présent passablement avant que je m'en occupe, qu'on me demande de m'en occuper. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu, j'ai presque eu l'impression que nous nous voyions tous les jours.
Ça a duré combien de temps? La fabrication de ces trois
dizaines volumes. D'années. Oui, 10 ans, mettons, oui.
Et vous avez donc travaillé pendant 10 années sur Augustin, mais vous aviez fait sa connaissance.
Voilà, depuis toujours, c'est presque un camarade de promotion, en ce sens que dans ma jeunesse, j'ai lu un peu de saint Augustin, puis au point de vue philosophique, ça m'intéressait. Si bien que je ne lisais pas uniquement les confessions, comme beaucoup. C'est Maurice Druon qui m'écrivait un jour en recevant la Cité de Dieu et d'autres bouquins d'Augustin que je lui envoyais. Il me disait, oui, ça me bien fait de dédier ça. On dit toujours les confessions quand on parle d'Augustin, et grâce à cette édition-là, enfin, les gens vont pouvoir, de façon commode, avoir sous les yeux une grosse partie de l'œuvre d'Augustin. Mais je le connaissais bien avant, et la première fois que je l'ai enseigné, c'était au cours de, ça existait à l'époque, ça existe plus maintenant, c'était au cours de propédeutique en 1962, dans l'amphithéâtre d'anesthésiologie qu'on avait mis à la disposition des gens qui faisaient propé, rue de l'école de médecine. Et il m'arrivait de faire cours dans un amphi où traînait une compresse ou des histoires de ce genre.
Quel est l'Augustin que vous préférez? Est-ce que c'est celui qui raconte qu'il aimait aimer à Carthage? Ou est-ce que c'est l'Augustin qui se convertit après la révélation d'Ostie?
Je les aime tous, et vous vous attendiez à ce que je vous dise ça. Oui, il court des bruits toujours sur le pauvre Augustin. Je dis le pauvre Augustin comme un Bordeaux. Et il court des bruits, alors on dit, il y a toujours, n'est-ce pas, ce pensif du jeune type qui n'en finit pas d'enterrer sa vie de garçon, qui court, qui va et vient, etc., qui n'arrête pas, et puis qui tout soudain est frappé par la grâce, devient un chrétien et se convertit. Ben c'est pas ça du tout. Je me rappelle un soir où nous étions passés à Apostrophe, où Pivot m'avait dit avant de commencer, il m'avait dit, écoutez, professeur, vous foutez tout en l'air. Je suis un élève des bons pères, j'ai appris qu'Augustin c'était ça, mais vous dites c'est pas du tout ça. Mais effectivement, c'est pas ça, parce qu'Augustin a toujours été chrétien. Simplement, il l'était autrement à un moment donné de sa vie. Et sa conversion, en réalité, au sens où nous l'entendons, nous, son changement total de vie, total, eh bien, ça a quand même demandé 9 ans. Alors on peut pas dire que ça a été instantané. Hein?
Vous-même, Lucien Jaffagnon, est-ce que vous avez séjourné parmi les manichéens et les dogmatiques de tout poil avant de trouver un peu de calme? Parce que c'est le parcours d'Augustin, ça.
Vous savez, nous promenons tous un peu à droite et à gauche dans la pensée, dans les histoires de religion et tout ça. Nous sommes tous un peu pareils. Quand on parlait de Plotin un moment, il avait été un peu partout chez tous les concessionnaires de marques de philosophie. Enfin, eh bien, et il n'était pas le seul. Justin, Lucien de Saint-Mozat et tous ces gens-là ont toujours eu un moment où ils cherchaient partout, puis finalement ils ont trouvé. Alors Augustin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, un beau jour, il a fait, comme on parle de crise d'adolescence, il a fait sa conversio ad philosophiam, parce que c'était classique, ça. On se convertissait à la philosophie, parce que tout d'un coup, on se mettait à chercher la sagesse. Bon. Alors, il dit, bon, c'est pas tout ça, faut que je trouve la sagesse. Il avait peut-être 18 ans, ce moment. Bon. La sagesse, c'est quoi? Alors, comme il était chrétien et qu'il allait catéchumène autrefois, bon, comme il allait, il écoutait sa maman qui était très chrétienne, comme il écoutait l'ecclésiastique qui devait faire un sermon, il entendait dire que la sagesse, eh bien, c'était la Bible. Eh ben, qu'à cela ne tienne, qu'on m'apporte une Bible. Alors, il se plonge dans la Bible, une belle traduction, la Vetus Africana, probablement, c'est-à-dire quelque chose d'abominablement traduit. Et lui, qui adorait le beau latin, il dit, non, mais c'est pas vrai. Il tombe dans un latin genre Yabon Banania, quoi, si vous voulez, quelque chose comme ça, pour Saint-Gore, qui aime le français. Enfin, puis en plus, la Bible, il trouvait que c'était plein de généalogie boiteuse, d'histoire, même quelquefois des histoires salées, et dire, mais c'est ça la sagesse? Ah ben non, ça j'en veux pas. et il vire l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Bon. En revanche, gardant un grand amour pour Jésus, il aime Jésus, et il y avait juste une secte, hein, absolument, qui lui allait comme un gant, c'était la secte des Manichéens, qui avait pignon sur rue, dans son Afrique natale. Et les Manichéens avaient ceci de particulier, pour eux, il y avait le Dieu du bien et le Dieu du mal. Or, comme le mal l'avait toujours hanté, il avait la réponse. Le Dieu du mal, c'était, selon les Manichéens, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui avait fait posé la création et qui l'avait raté de bout en bout, étant avec les petites bêtes, les grosses bêtes mangent les petites, on s'entretue, etc. Le monde est mauvais. Et ça, c'est le Dieu, ce Dieu-là qui l'a fait, c'est de sa faute, c'est pas beau.
Le Dieu du cloaque.
Voilà. Et le Dieu bon, c'est le Christ, qui lui est lumière, etc. Donc ils avaient massacré le véritable christianisme qui tient des deux, n'est-ce pas? Et ils avaient fait divorcer l'Ancien et le Nouveau Testament. Ah ben, ça lui allait très bien, parce que sur le coup, ça, il avait réponse à tout. Et puis, en approfondissant ça, il s'est aperçu, mais il a mis 9 ans pour s'apercevoir, il s'est aperçu que ça tenait pas debout, quand il faisait des calculs sur le cosmos, sur les éclipses, ou toutes ces sortes de choses, les Grecs étaient bien meilleurs. Et si bien que au bout d'un certain nombre d'années, 9 ans, il est sorti de là, mais il s'était passé pas mal de choses entre temps.
On a le sentiment dans vos livres un peu à la façon, si vous voulez, dont le héros du parfum, par exemple, s'évanouit, n'a pas lui-même d'odeur et donc peut toutes les percevoir. On a le sentiment, en vous lisant, que vous essayez de mettre aussi peu de vous-même que possible, de telle sorte que les autres puissent parler à travers vous. Est-ce que cette façon de faire, ou d'enseigner, ou de transmettre, vous vient de lui ?
Il a dû y contribuer. Vous savez, les confessions, contrairement à ce qu'on pense, que veut dire confessio, c'était une confessio laudis. Comme on dit, c'est un confesseur de la foi, pour dire un martyr, par exemple. Ça veut pas dire écoutez bien les gars, je me raconte. Ça veut dire, je vais confesser ma foi en disant combien Dieu est bon. Et je me demande même, mais qu'est-ce que Dieu a bien pu me trouver pour être aussi bon avec moi?
C'est dans les psaumes qu'il est écrit que double est la confession, celle du péché et celle de la louange.
Celle de l'amour. Il dit, au fond, voilà, il m'a aimé, c'est lui qui m'a aimé le premier, il m'a aimé. Et alors que j'avais tout pour ne l'être pas, mais enfin, quelle extraordinaire bonté est celle de Dieu pour que, tel que j'étais, me perdant dans tout, et là il en remettait, parce qu'en fait sa crise d'adolescence, elle était très courte, hein, il était déjà père d'un enfant, il s'était déjà rangé avec une fille qu'il aimait, avec qui il est resté 9 ans, on va pas dire qu'il courait, hein, c'est comme on prétend, il s'était rangé très tôt. Peter Brown dit même que il a mis fin un peu trop rapidement à sa crise d'adolescence dans sa très belle vie d'Augustin.
Et comment expliquer que cette femme n'ait pas de nom chez Augustin, comme dans le nom de la rose d'ailleurs.
Oui, exactement, comme dans le nom de la rose, du seul amour terrestre de sa vie, il n'a jamais dit le nom. Tout simplement parce que, si vous voulez, c'était pas véritablement sa femme, c'était un petit arrangement qui ressemblerait un peu au Pax d'aujourd'hui, si vous voulez. C'était une tolérance de l'Église. En attendant un mariage un peu stable, on ne peut jamais savoir, parce que si jamais ça compliquerait les choses. Alors donc, tout le monde fermait un petit peu les yeux, si vous voulez, les parents, disant, bon, pendant ce temps-là, il sera tranquille, il se tiendra tranquille, il courra pas ailleurs. Et puis l'Église disait, oui, évidemment, c'est pas très bien, mais enfin, bon, la chair est faible, vous voyez, c'était ça. Et cette jeune femme, elle, et il l'aimait profondément, puisque lui-même dit que quand sa chère maman, qui lui avait trouvé un chouette mariage avec beaucoup de sous et toute cette sorte de choses, quand sa chère maman avait prié Céline Nommée, la pauvre jeune fille, de vouloir bien prendre le prochain bateau pour retourner en Afrique, il traînait au flanc une plaie, n'est-ce pas, qui, ça lui, comme on dit, ça lui avait arraché le cœur. Hein. Mais il avait quand même marché dans la combine de Monique un moment, hein. Comme on disait un jour, un des meilleurs augustiniens de France, le père, sinon le meilleur, je crois, le père Madec, Goulven Madec, il disait c'est pour ce qu'il a fait de mieux. Voilà, et de fait, c'était tout à fait ça. Mais cette fille, il n'en a jamais parlé parce que, ben, si vous voulez, c'était pas, on ne s'en vantait pas, en quelque sorte. C'était un état de fait, hein. C'était un état de fait. Alors bon, on n'en parlait pas trop, donc on ne saura jamais le nom de cette pauvre enfant, qui s'en est retournée, promettant qu'elle ne connaîtrait, au sens biblique du mot, qu'elle ne connaîtrait plus jamais d'homme.
Il n'y a pas que ça qui pourchasse Augustin, il y a aussi le remords d'avoir un jour volé des poires dans un jardin.
Ah, les fameuses poires dont mon éminent collaborateur Cambronne a parlé, oui. Le coup des poires, oui, une vraie histoire d'adolescence.
Pourtant, il revient dessus 40 ans plus tard.
Et puis il y revient, parce que ça l'a frappé. Voilà ce qui s'est passé. Il savait pas trop quoi faire, comme les gosses de cet âge-là. Et puis il dit, tiens, on va aller piquer les poires du voisin. Alors ils vont piquer les poires, non pas parce qu'ils avaient envie de poires, elles étaient immangeables, même les cochons n'en auraient pas voulu, ils le précisent, hein. Mais ça faisait plaisir, ils foutaient les poires en l'air, secouaient le pomme, le poirier, puis voilà. Ils avaient mis le désordre, c'est un autre terme qui me viendrait à l'esprit, et les adolescents adorent ça. Et il dit tout simplement, mais alors, ça montre bien que c'était même pas la concupiscence, le désir de manger des poires, c'était vraiment pour faire le mal, disons-le franchement, pour foutre le bordel, disons-le simplement, autrement dit, mettre le péché, introduire, on voit très bien, introduire le péché qui lui-même est en moi, puisque d'ailleurs, il est toujours hanté par ça, parce qu'il avait regardé, par exemple, deux nourrissons, qui se lançaient des regards homicides parce que il y en avait un qui prenait le sein de la brave dame et il disait mais alors et moi là-dedans qu'est-ce que je deviens et puis est-ce qu'il en restera bah, c'est... et c'était de nourrissons, c'était pour bien montrer que l'homme naît mauvais et qu'à la rigueur la société pourrait peut-être essayer de le rendre bon. Là-dessus, je suis pas très rousseauiste, je suis plutôt d'avoir
oui,
regardé
pour
les hommes.
L'homme est naturellement
oui,
bon.
Oui, je sais. C'est pourquoi je suis plutôt augustinien que rousseauiste, parce que à mon grand âge, je n'ai pas souvent eu d'occasion de constater que l'homme était bien extra, à commencer par moi.
Alors, précisément, vous parlez d'Augustin dans le petit découverte Gallimard que vous avez écrit sur Augustin.
Ah oui.
Vous avez donné ce titre magnifique, vous l'appelez le pédagogue de Dieu. Or, dans vos écrits, où vous laissez à votre lecteur toute liberté de choisir parmi les différents systèmes. Vous parlez de Marx, de Sartre, comme vous parlez d'Augustin ou de Plotin, mais vous en parlez un peu moins. Et puis il y a surtout, me semble-t-il, en tout cas à première lecture, le sentiment que une partie de vous-même relève aussi de cette pédagogie du divin, d'une invitation, une invitation au voyage céleste. Est-ce qu'on peut le dire, ça ?
Oui, c'est bien parce que j'y avais pas pensé, peut-être pour une raison bien simple, c'est que je ne pense trop jamais à ce que je fais. Je dois avoir à peu près tous les défauts, mais narcissique point, parce que ça me limite, ça me freine. Oui, alors si c'est comme ça, je m'en réjouirais, parce que au fond, Augustin est pédagogue de Dieu en quel sens ? Eh bien, il veut essayer de montrer aux autres, de faire sauter les idées fausses que les autres ont sur Dieu. Parce que, pardon, L'homme, on se rappelle Voltaire, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Alors, il essaie d'évacuer toutes les idées fausses qu'on peut avoir sur Dieu. Et comme les idées fausses s'en sont allées, du coup, le terrain est dégagé et on pourrait peut-être se mettre à essayer de faire ce qu'il faut pour entrevoir Dieu. Et ça serait quand même beau d'entrevoir au moins. Il y a un passage d'Augustin où il dit Deus melius nesciendo, Dieu qu'on connaît mieux en ne le connaissant pas. Hein? Ou bien il dit ailleurs, si tu trouves une bonne formule sur Dieu, ben c'est que c'est pas ça. Donc, voyez, c'est une manière pour lui d'orienter vers l'indicible, orienter vers l'indicible, vers ce qui ne se dit pas. On ne blablate pas sur Dieu pour une bonne raison, c'est que il dépasse tellement le langage, il dépasse tout. Hein. Alors, si vous me dites que ça se passe un peu comme ça avec mon propre boulot.
Je pense, par exemple, en particulier, vous avez dans Les Dieux ne sont jamais loin un chapitre qui s'achève, qui s'appelle L'espérance du savoir et le savoir de l'espérance, et vous terminez en disant, on se prend à rêver d'un monde sans anathème, où le savoir de l'espérance viendrait magnifier l'espérance du savoir, où vous dites, oui, comme il arrive qu'on rêve d'idéal, d'éternité, de paix universelle, d'intelligence partagée, de bonheur même. Au fait, comment était-ce au Jardin d'Éden? On n'a jamais très bien su. Il paraît que c'était la vie rêvée.
Oui. Mais d'autre part, là, ça répondra, je crois, à votre question. C'est Jean Kelevitch qui y répondra. Un paradis peut-il être autre chose que perdu? Ça serait ça que je répondrais. Nous savons très bien que bon, le paradis tel qu'on nous le présente, c'est mythique, hein, un mythos. Donc, moi personnellement, j'y suis jamais allé. Peut-être que j'irai un jour, rien ne presse. Dieu a l'éternité devant lui. Toujours est-il que personne n'en étant revenu, nous restons dans le mysterion, dans le mystère, dans le mythos, dans le mythe. Nous ne savons pas ce qu'était exactement ce que fabriquaient Adam et Ève. Hein. C'est les tout premiers, enfin ceux qui sont le symbole des tout premiers.
Mais Lucien Jaffagnon, derrière le nom de Dieu, est-ce que vous mettez une espèce de fourre-tout qui permet de désigner une chose et son contraire dans l'histoire des idées?
Ça, ou bien... si j'étais théologien, ça serait ça.
Mais vous ne l'êtes pas, donc,
non.
Comme dirait Spinoza, par Dieu, qu'entendez-vous?
Un peu ce qu'entend Spinoza, il y a deux plans. Un premier plan, qui est le plus haut, c'est le plan, ça serait l'un de Plotin, pour moi, c'est l'au-delà de tout. Et je ne suis pas le seul. Par exemple, Saint Grégoire de Nazianz, qui est un saint de l'Église catholique, grecque, dit, ô toi l'au-delà de tout, et pekeinaton panton, ô toi l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi? Et ça, c'est une prière chrétienne, hein. C'est pas un bon Dieu dont on a la recette, hein.
C'est pas très spinoziste, ça, Lucien.
C'est pas très spinoziste, mais malgré tout, c'est spinoziste quand même par la qualité, par la façon abstraite dont je peux en parler. Mais à côté de ça, autre plan, et il faut tenir les deux bouts de la chaîne, disait Pascal. Autre plan. Eh ben, il y a là ce que mon collègue Duméry appelait un absolu de dialogue. L'absolu de dialogue, par exemple, que le chrétien rencontre, nous évoquions ça un jour avec vous, les gens qui reviennent de la crucifixion et qui passent à Emmaüs et qui s'y arrêtent, hein, et ils le reconnurent à la fraction du pain. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. L'absolu de dialogue. Voyez-vous, je ne peux pas dialoguer avec Plotin. Avec le lin de Plotin, je ne me vois pas taillant une bavette avec le je sais plus dans quoi j'ai trouvé ça. Je me demande si c'est pas, il y a du Jean Kelevitch aussi là-dedans. On ne peut pas discuter avec l'au-delà de tout. Mais vient un moment où on peut espérer que en deçà de cet au-delà de tout, il y a une présence, et une présence qui est au niveau humain. Mais je suis comme le chat qui est monté. Tenez, je prends une image. Quelquefois, il y a des chats qui montent tout en haut d'un arbre et après, on les entend miauler parce qu'ils sont plus fichus de descendre. Eh bien, il m'arrive d'être tout en haut de cette des branches et d'avoir, car j'ai eu plusieurs fois dans ma vie cette intuition de la contingence tout à coup, qui est celle d'ailleurs de tas de gens dont on pourrait parler. J'ai eu cette intuition de la contingence, qu'est-ce que je fous là, c'est incompréhensible, et puis rien. Et je suis arrivé là, et puis je regarde en bas, je me dis que ça doit être bon d'avoir la foi sans être aussi dépouillé, une foi qui parle avec des paroles humaines et qui peut pleurer de façon humaine, et dire sa détresse ou dire son amour et de façon humaine. Il y a les deux, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et il faut de temps en temps peut-être aller chercher le chat en haut de son arbre ou l'y laisser en attendant qu'il se débrouille lui-même. Alors j'essaie de me débrouiller moi-même comme je peux. Oh, comme je peux.
Est-ce que dans la position du chat qui est tout en haut de l'arbre, est-ce que finalement si cette position-là d'abord est difficile à tenir et ensuite ne vous semble pas la plus enviable, est-ce que ça n'est pas aussi...
C'est la plus enviable.
Mais pourtant vous
n'allez
de
l'une à l'autre.
Mais pourtant, on ne s'y maintient pas. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de conjurer le vertige et d'en appeler à un dieu dont vous parliez, qui
un absolu de dialogue.
Un absolu de dialogue. Est-ce que le dieu de dialogue n'est pas celui qui associe d'extrêmement rassurant que le fait de croire en lui ne nous donne pas le vertige?
Oui, Guiton, que je ne cite pas souvent, dit quelque part, quelqu'un qui lui demande pourquoi croyez-vous en Christ, parce que j'ai du mal d'y croire, parce que c'est difficile d'y croire. Vous voyez, il est bien évident qu'il y a un niveau personnel. Toujours, on retombe toujours dans dans la pluralité où le pluralisme se bat de la vérité. Il y a la vérité religieuse, la vérité philosophique, la vérité scientifique, la vérité historique, toujours ces chaînes de vérité dont parle Paul Venn, et on zappe de l'une à l'autre. C'est ça qui est terrible.
On peut parler de théologie négative à ce moment-là?
Ah oui, oh là là, et je suis même tout à fait content de parler de théologie négative. C'est même épatant, c'est tout à fait ça. Comme le pseudo Denis Areopagite qui montre qu'on est beaucoup plus près de connaître Dieu à partir d'une image grotesque quelconque que d'un calendrier des postes qui donne une si belle figure de Dieu qui est presque trop beau. Enfin, c'est puis surtout une beauté humaine. Me plaît pas celui-là. Oh, tous ces dieux. Je me rappelle une fois une excellente crise de rigolade avec les jeunes femmes qui préparaient vous savez le petit bouquin de Gallimard dont vous parliez tout à l'heure, elles me soumettaient des images de dieux à mettre, etc. À une, j'ai dit, si jamais le bon Dieu a cette tête là je vais tout de suite à mon agence de voyage retenir une place pour l'enfer, parce que je veux pas être en face de ça pour l'éternité. Vous voyez, les images de Dieu sont telles que il transcende tout. Il faut se dire qu'il transcende toute image, et puis qu'il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec.
C'était à voix nue. Raphaël Antoven s'entretenait avec Lucien Gerfagnon. Réalisation Ghislaine David.
Écoutez, vous êtes sur France Culture.
France.
Chères auditrices.
Cultura.
Chers auditeurs.
Je suis en écoute de France Culture.
Quand je veille, je mets la radio et parfois j'écoute les gens parler.
Okay, we have some fabulous live
music. La radio n'est que mouvement. Ça, c'est la voix. La voix.
Vous êtes sur France Culture.
Il y a deux focales, il commence par un serré, peut-être au 35, la lettre est déjà là.
France Culture, partenaire d'entrevue, 19e Festival International du Film de Belfort, du 27 novembre au 5 décembre.
Serré, contre-champ.
Découvrir et faire découvrir les cinéastes d'aujourd'hui et de demain, sans oublier les films essentiels de l'histoire du 7e art, c'est le défi lancé chaque année par ce festival.
Je veux dire physiquement.
Entrevue, Festival du film de Belfort, du 27 novembre au 5 décembre, avec France Culture.
Non, mais maladie, il y a deux choses importantes.
France Culture vous offre 5 laissez-passer valables pour 2 personnes pendant tout le festival.
Allez, silence, s'il vous plaît.
08 92 68 10 99, touche 2, rubrique place de spectacle, 0,34 € la minute.
Silence.
Les pieds sur terre, c'est...